de la question. D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer?
C'est pour qui?
À quoi ça sert?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver avec Guillaume Ploquin à la réalisation pour tenter de porter un regard plus avisé sur notre planète Terre et sur les changements globaux qui affectent à la fois le système Terre et toutes les espèces qui y vivent, y compris la nôtre. C'est à partir de l'Équateur où notre invité, l'écologue Olivier Dangle, mène ses recherches sur la biodiversité et les changements globaux dans les Andes tropicales que nous commencerons ce tour d'horizon entre émerveillement et prise de conscience pour découvrir comment les différentes espèces répondent à ces changements, comment nous les humains les percevons et quels moyens nous avons d'y répondre autour de la question comment porter un autre regard sur notre Terre. Bienvenue. Bonjour Olivier Dangle.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes écologue, directeur de recherche à l'IRD. C'est vous qui représentez cet institut de recherche pour le développement en Équateur, à Quito, où s'est aussi tenu le mois dernier le colloque international sur la biodiversité face au changement climatique. Est-ce qu'on peut dire, Olivier Dangle, que c'est au sud, dans toute cette grande zone tropicale équatorienne, que l'érosion de la biodiversité est la plus visible, la plus préoccupante?
Alors effectivement, la zone tropicale, c'est vraiment le berceau de cette biodiversité formidable qu'on a sur la planète Terre, avec plus de 70% des espèces qui sont présentes. Et donc, on a vraiment une sorte de bagage et de patrimoine vivant qui sont présents dans cette zone et qu'il nous faut absolument protéger.
Alors vous-même, vous travaillez notamment, pour ce qui est du direction du réchauffement climatique, sur le retrait des glaciers andins. Vous avez été aussi lauréat du deuxième prix de la recherche au Sud, IRD, pour vos travaux sur la biodiversité et des changements globaux dans les Andes tropicales. Et vous avez à cœur de partager ce que vous savez et ce que vous découvrez, ce que vous constatez, cette autre terre transformée par nos activités humaines, une autre terre. C'est le titre du très beau livre que vous venez de publier aux éditions de l'IRD, un lexique illustré avec de magnifiques photos d'une nature à protéger. Il y a également une exposition de photos qui est présentée actuellement, je crois, à l'Alliance française de Quito.
Oui, tout à fait.
Il est important pour vous de faire passer ce message, au fond, d'une biodiversité puis d'une des animaux dans leur environnement naturel, que ce soit les villes ou ailleurs.
Oui, alors effectivement, bon, ça vient de quelque chose d'assez profond en moi, je dirais. Quand j'étais tout petit, j'étais déjà proche de la nature, chez mes grands-parents, et donc c'est quelque chose, je pense, qu'il faut l'avoir en soi pour vouloir faire passer le message. Et ensuite, c'est vrai que le mot biodiversité, ben, c'est en fait tout ce qui est vivant sur notre planète, et nous aussi. Donc nos relations avec le milieu naturel passent par ce mot magique qu'on utilise un petit peu partout. Et le but est effectivement de faire mieux comprendre aux gens un petit peu ce que c'est, ce qu'il y a derrière. Il y a eu par exemple, une enquête qui était faite en Angleterre où ils demandaient aux gens qu'est-ce que c'est biodiversity et les gens répondaient c'est une marque de lessive parce qu'il y avait beaucoup de lessive bio à l'époque, alors ils pensaient que c'était encore une marque de lessive. Donc il y a encore du chemin à faire quand même pour raconter tout ça. Et le mot biodiversité, c'est un mot duquel on peut s'emparer pour mieux comprendre ces relations
diversité de la vie, de toutes les vies.
Exactement, diversité de la vie, diversité de tout ce que l'homme peut créer. La diversité des fromages en France, c'est de la biodiversité entre guillemets.
Relations entre tous ces êtres vivants entre eux et avec leur écosystème.
Exactement. Alors là, c'est encore la chose la plus magique qu'il peut y avoir, en fait, c'est de découvrir toutes ces interactions, toutes ces relations. Je me rappelle encore, il y a 3-4 ans, en pleine Amazonie, on a vécu pour la première fois une interaction qui n'avait pas été décrite entre une tortue et une abeille. L'abeille se nourrissant des larmes des tortues. Donc on a essayé de mieux comprendre ce qui se passait.
L'abeille se nourrissant des larmes des tortues.
Alors en fait, oui, ce qui se passe, c'est qu'en Amazonie, on a relativement peu de sodium, en fait, qui est présent dans la forêt. Et les animaux doivent chercher ce sodium. Et bon, quand vous-même, vous pleurez,
Il y a un peu de sel,
voilà, exactement. Et donc, ces abeilles, on pense, on n'a pas encore la réponse vraiment à toute la question, mais on pense qu'effectivement, elles se nourrissent des larmes de ces, elles se nourrissent du sel qu'il y a dans les larmes de ces tortues. Et donc, voilà, c'est encore une interaction complètement incroyable qu'on connaissait pas avant. Et comme vous le dites, effectivement, cette biodiversité, c'est tout ce réseau d'interactions qui est complètement passionnant pour les scientifiques.
Autour de la question, comment porter un regard plus avisé sur notre Terre? On commence par quelques pistes de réflexion sonore avec le mix biodiversité, évidemment, de Guillaume Ploquin.
Ce qui est assez génial dans ce genre d'environnement comme en l'occurrence l'Amazonie équatorienne, c'est qu'il y a tellement d'espèces que le chercheur, quand il se balade dans ses forêts, il se retrouve quasiment à la même position que Darwin quand il était au Galapagos.
Entre 5 et 100 millions d'espèces différentes peuplent la planète.
Est-ce qu'il est optimiste sur l'avenir de la biodiversité ou au contraire, est-ce qu'on doit écouter les alarmistes de tous bords qui nous alertent sur un appauvrissement du monde vivant ?
97% des scientifiques travaillant sur le changement climatique estiment que la Terre se réchauffe en raison des activités humaines. Sur tous les continents, les glaciers d'altitude reculent et disparaissent.
La biodiversité, c'est pas que le seul fait de compter des espèces, c'est surtout de mettre en évidence dans un écosystème toutes les relations que les espèces ont établies entre elles et avec leur environnement.
Parmi ces millions d'espèces, il y en a de toutes les formes et de toutes les couleurs.
Les espèces, elles se connaissent et elles ont chacun leurs outils pour vivre. Le venin, les griffes, le bec, chacun est équipé, vous voyez. Donc il y a des relations proie-prédateurs, ils se connaissent, etc. Et là-dessus arrive l'homme.
Le processus de déforestation est la conséquence d'une combinaison de différents facteurs que l'on retrouve dans toutes les forêts tropicales du monde.
La nature n'est pas le décor de notre existence. Nous en faisons partie. Et ça, il faut qu'on en prenne conscience.
L'artiste, souvent, fait parler le vivant pour comprendre et relier des échelles à la fois très locales à des enjeux qui vont aller jusqu'à l'influence du réchauffement climatique.
C'est important de réaliser que le Sud risque d'être une des premières victimes d'une crise écologique.
La ciencia es universal.
Olivier Dang, vous voulez réagir à ce que vous venez d'entendre ?
Oui, alors, plusieurs voix que j'ai reconnues, notamment Gilles Boeuf qui parle des interactions, ou mes amis de l'IRD qui se demandent si on doit complètement être des prophètes de malheur quasiment, ou au contraire essayer d'expliquer qu'il y a peut-être des chemins qu'on peut suivre. Donc effectivement, tout ça, c'est un petit peu notre vie de tous les jours à nous qui essayons de communiquer sur la biodiversité. C'est un petit peu à la fois cet émerveillement qu'on peut avoir quand on la découvre, quand on l'étudie, et cette responsabilité finalement qui est la nôtre d'essayer de ne pas la détruire et de conserver le maximum pour les générations qui viennent.
Alors votre livre s'appelle Une autre terre, c'est pas un titre étrange, c'est un titre qui dit beaucoup de choses. Alors on peut l'entendre en plus en radio, ça peut donner notre terre, mais non, c'est oui. Une autre terre. Cette autre terre, c'est celle que nous, les hommes, au fond, nous avons transformée, changée, bouleversée depuis quelques siècles, avec nos actions.
Exactement. En fait, si des extraterrestres venaient il y a 2000, 3000 ans et qui revenaient maintenant sur la Terre, ils diraient c'est pas la même planète en fait. On l'a modifié à un tel degré que on pense maintenant qu'on peut dire qu'on rentre dans une nouvelle ère, ce qu'on appelle l'anthropocène. Donc dont on n'est pas exactement sûr quand elle commence, mais on l'a modifié comme a pu la modifier les temps géologiques ou des éruptions volcaniques, des forces vraiment très puissantes.
Donc effectivement, et sur un temps assez rapide.
Voilà,
c'est ça,
en plus sur un temps complètement raccourci par rapport aux autres changements qu'il y a pu y avoir. Donc effectivement, on a créé une autre Terre. Alors, en cherchant un petit peu dans la biographie, j'ai retrouvé même des citations de Cicéron qui parlaient déjà d'une autre nature. Il expliquait un petit peu les ponts qu'il y avait, les aqueducs, la manière dont l'homme avait domestiqué la nature. Il parlait déjà d'une autre nature. Et donc, c'est ce qui m'a donné l'idée, en fait, de l'appeler une autre Terre, parce qu'on est vraiment sur, finalement, quelque chose qui est très différent de... Enfin, une planète qui est très différente de celle que...
Et au fond, ça, c'est... un constat, au fond, c'est une réalité, mais on peut aussi en faire une autre terre. C'est-à-dire que nous, les hommes qui avons été capables de la transformer à ce point-là, c'est pas juste alarmiste, c'est juste catastrophique. C'est de dire on peut faire des choses dans tous les sens.
Voilà, alors là, c'est le jeu de mots qui est un petit peu dans le titre, effectivement. C'est quelle terre on veut, entre guillemets, sur laquelle on veut vivre, quelle relation on veut avec cette terre pour essayer de faire autre chose que celle qu'on est en train de faire, au moins psychologiquement, mentalement, sur notre responsabilité. Ça, c'est important.
La responsabilité du chercheur, c'est en tout cas de faire partager tout ça, c'est aussi de s'intéresser et de travailler sur les différentes espèces. Il y a notamment des espèces que vous appelez sentinelles du changement climatique. C'est qui les animaux qui sont sentinelles et qui vous permettent justement de mesurer ces changements ?
Alors effectivement, dans les années 90, le New York Times titrait sur les canaris dans la mine. Vous savez qu'avant, dans les mines, on amenait avec nous un petit canari. Et en fait, le canari était capable de détecter avant l'homme notamment du CO2 qui était en train de venir dans la mine. Donc c'est ça, des espèces sentinelles, c'est des espèces en fait qui sentent avant nous ce qui va se passer. Et donc cette image du canari dans la mine, c'est quelque chose qui a été repris pour quelques groupes, et les groupes les plus connus, on va dire les deux grands groupes dont on parle en ce moment dans la sphère scientifique, ce sont les amphibiens, c'est-à-dire les grenouilles qui
donnent pas la météo, mais enfin qui sentent bien les changements climatiques.
Voilà, exactement. Alors la grenouille, elle a, vous savez, elle peut respirer par sa peau, elle a une peau très, quand on la touche, on voit qu'elle est un petit peu humide, c'est comme s'il y avait un poumon finalement. Elle fait tout par sa peau, donc c'est véritablement une sorte d'éponge qui ressent tout ce qu'il peut y avoir, puis les pesticides, la déforestation quand ils vivent là-bas, enfin vraiment plein de choses. Donc c'est des organismes qui sont très très sensibles et dont on a déjà répertorié en fait l'extinction de certaines grenouilles dans les Andes notamment. On a déjà des grenouilles qu'on trouvait en abondance il y a encore quelques dizaines d'années et qu'on ne trouve plus du tout.
La magnifique grenouille qui est en photo, il y a une grenouille.
Oui, il y a une grenouille venimeuse, oui, sur la photo.
Oui,
bah,
elle est venimeuse.
C'est pas celle-là, mais ça, c'est une autre, un peu moins belle. Elle est toute noire. C'est pour ça qu'on l'a pas mis, parce qu'on essaye aussi d'avoir des choses un petit peu flashy. Mais effectivement, voilà, en Équateur, il y a certaines grenouilles, de celles qu'on connaît, parce qu'il doit y en avoir certaines qui ont disparu sans qu'on sache.
Autour de la question, comment porter un autre regard ou un regard plus avisé sur tous ces changements, on écoute le groupe malien Ghost Poet et Doukoura Season Change.
Normally feel like I don't wanna know, but I've been feeling the change. Get out my way, man, I just wanna grow. Oh, trying to fix my place, I once saw in a dream. Poker hot sun, bloody left my sun cream. Poking up my liver while I shiver all day. And drums keep playing, rapper won't stay. Drunk the local wares until I felt a bit giddy. Acting all silly, Marley's all on telly. Life change cunning, but these west legs running. Cool the sack, intimate, I ain't that relevant. Heavens above, man, I've been waiting a while. Lights ain't on, I can't be cracking a smile. Why won't the season change? Ooh, cried out, but still I'm shedding a tear. Why won't the season change? Future's bright, but I ain't feeling it here. Why won't the season change? Change, change. Why won't the season change? Change. Bus full of characters, can't see the wood for the mind jungle overrun. Too much fun, I'm all distracted, reacting to silly wires, cracks in a rag. Gotta get back, get an equilibrium, straight and right out. Sat the lad filling in, I gotta step up. Done with all the hiding, hid behind those curtains so neighbors can't see. But how can I ignore all the stuff out my window and turn a blind eye while the rain was coming down? I was thinking I could win it with a wink and a smile, but it's been this way for a while, ain't having it. Heavens above, man, I've been waiting a while. Why won't the season change? Lights ain't on, can't be cracking a smile. Why won't the season change? Ooh, cried out, but still I'm shedding a tear. Why won't the season change? Future's bright, but I ain't feeling it here.
Season Change sur RFI, le groupe malien Ghost Poet et Doukoura autour de la question comment porter un regard plus avisé sur notre terre qui change si vite et sur la biodiversité en compagnie de l'écologue Olivier Dang. Je vous propose un nouvel éclairage croisé, celui du philosophe sénégalais Souleymane Bachir Diagne et de l'ethnologue Romain Simnel recueilli à Fès au Maroc.
C'est important déjà de réaliser que le Sud risque d'être une des premières victimes d'une crise écologique majeure. On a beau dire que le Sud, en termes d'industrialisation, ne participe pas véritablement à la crise écologique. D'abord, ça va venir et c'est en train de venir de plus en plus vite. Ça veut dire donc qu'il faut estimer que l'on est logé à la même enseigne. Et par ailleurs aussi, les sociétés humaines, et je crois que c'est ce qui les définit, c'est ce qui définit une culture humaine comme une culture précisément, ont toujours eu, me semble-t-il, partout de manière universelle, une certaine relation de protection vis-à-vis de la nature. Il est donc important que les cultures puissent mettre à jour ce qu'elles peuvent contenir de réflexions écologiques. Et ça, c'est très important dans le monde où nous vivons.
Là, ça renvoie au projet des philosophies sud-sud, c'est-à-dire que la sensibilité écologique n'est pas l'apanage d'une intelligentsia occidentale. C'est quelque chose qui est partagé par toutes les cultures et qu'il faut décliner, justement. Il faut prendre en compte cet éventail de sensibilité écologique pour arriver à contextualiser chaque problème et à y trouver une solution. Parce qu'une solution globale n'existera pas. Donc c'est vers là qu'on normalement devrait se diriger.
pas de solution globale imposée d'en haut ou du nord, mais plutôt réflexion croisée qui partirait peut-être du sud. Ça vous inspire, ça, Olivier Dang, vous qui êtes basé à Quito, en Équateur?
Oui, alors c'est une question qu'on me pose souvent, justement, cette diversité un peu des approches, soit globale vers le bas, soit depuis des initiatives locales, et en essayant de répondre. Je pense que moi, qu'il faut les deux. Il faut quand même donner de l'espoir aux gens que les pays vont un jour pouvoir se mettre d'accord et essayer de trouver des consortiums qui puissent s'attaquer à des problèmes qui sont, eux, globaux. Donc, les initiatives locales ne pourront pas suffire, à mon avis. La mitigation du CO2 ou d'autres phénomènes comme ça sont...
Oui, là, il faut grandes conférences mondiales avec le gros barnum, quoi.
Exactement.
Et se mettre d'accord.
Et donc, je pense que c'est des signaux importants que devraient donner les États et les hommes politiques aux citoyens. Et puis, bien sûr, pour garder, nous, un petit peu espoir à notre niveau, puisque on va quand même de réunion en réunion où il se passe pas grand-chose, c'est justement avoir des initiatives locales et essayer de s'adapter à des conditions. Alors ça fait un petit peu pompier, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a un problème, on essaye d'éteindre le feu. Mais je pense qu'effectivement, ça, c'est aussi source de créativité. Les gens commencent à savoir comment on va s'adapter, comment on va contourner le problème, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire.
En Équateur, justement, il y a des pistes. Comment vous avez participé à la création du premier master de biologie de la conservation? Est-ce que il y a des étudiants, des chercheurs? Est-ce que les populations se mobilisent quand même pour ces questions-là? Parce que c'est quand même là qu'ils sont touchés.
Ouais, alors dans les pays tropicaux, il y a beaucoup d'innovations, en fait, beaucoup d'idées très bonnes qui viennent. Alors, la grande idée qu'a eu l'Équateur, c'est ce qu'on a appelé l'initiative ITT Yasuni. Donc, dans le parc national, qui était de demander aux pays industrialisés de mettre de l'argent sur un fonds, et en contrepartie l'Équateur se compromettait à ne pas extraire le pétrole qu'il y avait en Amazonie. Donc c'est payer une partie de pétrole pour qu'elle puisse rester sous terre. C'est malheureusement une initiative qui n'est pas allée jusqu'au bout, mais c'était une volonté, je dirais, à partir d'un pays, d'essayer de globaliser les efforts faits par les différents États.
Et puis de valoriser nature.
Exactement, enfin de replacer le contexte biodiversité, nature et tout au centre de la société. Et puis après, il y a tout un tas de petites initiatives, notamment sur la protection des forêts, ou alors des artistes qui se mettent ensemble pour essayer de créer et de communiquer sur le changement climatique, qui sont très importantes. Et je dirais que le chercheur classique, entre guillemets, dans les universités, notamment à Quito, en Amérique du Sud, est souvent un peu plus proche de son gouvernement, des prises de décision, des un petit peu un peu plus intégristes, entre guillemets, pour la conservation de la nature, qu'on peut l'être des fois dans les universités du Nord, où on est un peu plus, quelquefois, dans des sortes de tours d'ivoire. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui m'a aussi poussé, qui m'a aussi nourri, je dirais, comme scientifique, pour essayer, justement, de mieux communiquer, de plus communiquer. Le premier livre qu'on a fait, justement, c'était sur la nature en Équateur, et c'était un livre qui était quasiment commandé, entre guillemets, par l'Équateur. Et ensuite, bon, ça a eu de la répartition, elle est sortie en français, aux États-Unis, etc. Mais ça vient vraiment de cette volonté des chercheurs d'être plus proches et de faire passer les messages.
De communiquer sur place. Alors, il y a eu tout récemment ce colloque international sur la biodiversité à Quito, dans lequel il y avait des chercheurs, des décideurs, j'imagine, mais aussi des artistes. Enfin, là, il y a aussi...
Alors, c'est de la même manière qu'on est un peu plus proche de ces thèmes sous les tropiques, je pense, on est aussi un peu plus à même de faire des mélanges entre styles. C'est vrai que en France, dans le Nord, on a tendance à garder le niveau académique d'un côté. Les journalistes, ils viennent avec leurs questions, mais ils déforment un peu tout ce qu'on dit. Voilà, c'est un petit peu la vision qu'on a globalement. Puis les artistes, ils sont dans leur sphère, ils sont dans leur trip, hein, comme on pourrait dire. Et là, ce qu'on a essayé de faire effectivement à Quito, c'est de réunir tout ce monde-là et de voir comment on pouvait changer. Donc, on avait des journalistes qui sont venus, Stéphane Foucard du Monde, par exemple. On avait d'autres personnes, des artistes à la fois de France et à la fois équatoriens qui sont venus, qui nous ont montré comment eux faisaient passer des messages différents sur la biodiversité. On a par exemple une amie que j'ai à Quito qui s'est un jour amusée à regarder de très près les papillons de nuit, ces petites bestioles qui volent et qui nous disent sors-moi ça de la chambre, etc. Elle s'est amusée à regarder les patrons qu'il y avait dessus, à les dessiner, et depuis elle a gagné des prix de design.
En s'inspirant de ces ailes,
la nature,
des papillons
et
de nuit.
Voilà. Mmh. Et au lieu d'odier cette nature, on finit par l'aimer parce qu'on l'observe un peu mieux et que du coup on trouve des choses très belles, même a priori dans les animaux qui sont les plus moches.
Autour de la question comment porter justement un autre regard sur notre terre et sur la biodiversité, on continue de s'interroger avec vous, Olivier Dang, suite dans 3 minutes, juste après le flash d'info. On se retrouve de part et d'autre de l'Équateur et même dans les glaciers andins. À tout de suite. Retour
de la question.
Caroline Lachowski.
Bienvenue à vous qui nous rejoignez pour cette deuxième partie autour de la question comment porter un autre regard plus avisé sur la Terre, notre Terre et son incroyable biodiversité. Nous sommes en compagnie de l'écologue Olivier Dangle qui dirige le bureau de l'IRD à Quito en Équateur et qui vient de publier Une autre Terre, superbe ouvrage de photographie et lexique illustré d'une nature à protéger.
Olivier Dangle, biologiste à l'IRD, étudie les torrents issus de la fonte des glaciers. Avec un étudiant bolivien, il se rend au pied du glacier du Zongo, à 30 km de La Paz.
Olivier, c'est ici que se trouvait le glacier il y a environ 7 ans.
7 ans, pas plus. 7 ans. On voit aujourd'hui que le glacier se trouve 40 mètres plus haut qu'il y a 7 ans. Il a reculé en 7 ans de 50 mètres, plus ou moins. Ça veut dire que tous les animaux qui habitaient ici habitent désormais beaucoup plus haut. Par conséquent, les conditions de vie pour les invertébrés sont plus compliquées. Il y a moins d'oxygène là-haut. Et pour eux, la vie est certainement plus difficile. Nous allons voir si nous trouvons des animaux là-haut.
Extrait de Planète Glace, documentaire diffusé sur Arte, le retrait des glaciers dans les Andes, Olivier Dangle, voilà. Je mélangeais un peu les deux. C'est quand même une réalité, c'est pas drôle, c'est une réalité tangible et visible à l'œil nu.
Oui, alors justement, mes collègues glaciologues de l'IRD ont depuis 25 ans maintenant utilisé les glaciers comme des marqueurs de changement climatique. On va dire que c'est vraiment le marqueur le plus fin qu'on ait. Ce sont des systèmes géologiques qui sont très en fait en interaction avec le climat. Donc dès qu'il y a des changements, le moindre changement, effectivement, ça se sent. Il l'étudie. Et bien sûr, pour les populations humaines qui vivent, nous, à Quito, depuis Quito, on arrive à voir trois volcans différents, l'Antisana, le Cayambe, le Cotopaxi. Donc c'est, on voit petit à petit la fonte des glaces.
En habitant là plusieurs années.
Voilà, en habitant là, on voit notamment quand il y a des événements très secs, il y a des taches noires, par exemple, qui se créent. Donc on voit, parce que c'est pas complètement continu, il y a un petit peu des va-et-vient, on peut dire sur la ligne de démarcation de la glace. Mais effectivement, c'est des marqueurs qu'on a en pleine ville et pour savoir ce qui se passe.
En même temps, quand on pense à la région tropicale, on pense pas aux glaciers. Évidemment, nos auditeurs sont beaucoup en Afrique tropicale. Il y a pas de glaciers.
Ouais, alors effectivement, il y a très peu de glaciers. Il y en a un petit peu, le Kilimandjaro par exemple, ou le Mont Kenya sont encore des montagnes où on voit un petit peu de glace dans certains cas. Et c'est effectivement dans l'imaginaire de tout le monde, les tropiques, c'est un endroit où il fait chaud, où il y a des moustiques, où on sue, etc. C'est le cas pour la plus grande partie de l'Afrique, pour la plus grande partie de l'Asie également. Par contre, en Amérique du Sud, avec la cordillère des Andes, on a donc une grande partie en fait du territoire, une assez grande partie du territoire qui se trouve à des altitudes à plus de 2000 mètres. Quito, la capitale où j'habite par exemple, est à 2800 mètres. Donc il fait entre 19 et 21 degrés toute l'année. Toute l'année, voilà. Donc il y a vraiment pas.
C'est l'équateur, enfin. Le pays s'appelle l'équateur.
On est vraiment sur la ligne équatoriale, donc on a quasiment pas de saison toute l'année. Et donc on a cet air frais qui est là et on vit dans des conditions qui sont finalement pas aussi chaudes et humides. Et du coup, on a beaucoup de glaciers en Équateur, mais surtout au Pérou, il y a la plus grande densité en fait de glaciers. Et ensuite, on va plus bas, notamment en Bolivie, au Chili, il y a aussi des montagnes.
Vous avez étudié notamment, Olivier Dangle, la recolonisation des espaces après le retrait des glaciers. Parce que finalement, la nature, la biodiversité, elle s'adapte. Faut bien qu'elle s'adapte de toute façon. Les hommes aussi, d'ailleurs, faut bien qu'ils s'adaptent. Même si ce sont eux qui provoquent les changements. Et finalement, il y a quoi? Il y a une recolonisation de territoires? Les animaux montent plus haut?
Voilà. Donc, on essaye de comprendre effectivement ce qui se passe pour les animaux. Quels sont un petit peu les défis auxquels ils sont confrontés pour monter. Là, on a entendu mon collègue, Jorge Molina, à l'université de Sant Andrés à La Paz, qui nous parlait de l'oxygène, par exemple, parce que effectivement, pour certains animaux, on a besoin d'oxygène. Et quand on commence à aller plus haut en altitude, l'oxygène se raréfie. Il se raréfie dans l'air, mais également dans l'eau. Et du coup, donc ça peut être un facteur limitant qui fait que les rivières dans 30, 40, 50 ans qui commencent beaucoup plus haut, la limite des glaciers actuellement elle est environ à 4800, 4900 mètres, une fois qu'elle sera à 5002, 5003 dans 50 ans, on aura des ruisseaux beaucoup plus hauts. Mais est-ce que la vie va pouvoir s'adapter parce qu'on a des conditions qui sont extrêmement différentes?
Est-ce que les animaux pourront monter? Il y en a certains qui s'adaptent, j'imagine, certaines espèces s'adaptent, mais pas d'autres, comment ça se passe?
Voilà, alors pour l'instant on n'a pas trop de recul parce qu'on travaille, le problème des écologues c'est que là on a travaillé sur 4, 5, 6 ans, il nous faut vraiment des séries temporelles très longues, vous le savez, dans l'Antarctique par exemple, les chercheurs français sont depuis des décennies à mesurer les concentrations dans la glace. Pareil, nos collègues glaciologues, ça fait déjà 20-30 ans qu'ils ont mis en place un observatoire de l'environnement. Nous, en écologie, on est un petit peu plus en retard, entre guillemets. Toute cette dimension prend de l'intérêt maintenant avec les changements très 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 forts. Alors on fait un petit peu des modèles pour voir ce qui va se passer. On pense qu'effectivement la vie va être beaucoup plus difficile pour eux dans le futur, même si on ne sait pas encore tous les tenants et les aboutissants, aussi parce qu'on l'a expliqué juste avant, la biodiversité c'est très complexe, c'est des interactions, c'est pas du 1-1, c'est pas l'air et le glacier, mais c'est tout un tas de paramètres qui font que c'est pas aussi facile de savoir ce qui va se passer.
Il y a des zones refuges, hein, c'est ce qu'on découvre aussi dans votre... Alors, il y a l'effet lisière, c'est autre chose, c'est pour les questions c'est pour les forêts, la déforestation, mais l'important des animaux qui sont justement dans cette lisière des forêts, est-ce qu'il y a le même genre de choses, qu'il y a des zones aussi, enfin pas tampons, mais dans lesquelles on retrouvera une certaine forme de biodiversité ou pas?
Oui, alors ça c'est très important, la notion de... Alors on parle beaucoup du climat cette année et tout est recentré autour du climat, mais ce qu'il faut pas oublier c'est que la planète Terre est soumise à d'autres perturbations encore plus fortes, mais encore plus visibles, tout ce qui est déforestation par exemple, et surtout la fragmentation des forêts. L'effet lisière c'est justement quand on fragmente de plus en plus des forêts...
Parce qu'il y a de plus en plus d'hommes.
Voilà, parce qu'il y a de plus en plus d'hommes et parce qu'on exploite cette forêt, donc voilà, où on fait passer les routes. Une route par exemple, c'est typiquement quelque chose qui va couper en deux une forêt, et justement le long de cette route va se créer un effet lisière qui en fait implique des conditions au niveau de la lisière qui sont très différentes de celles qu'il y a dans la forêt. Donc ça c'est des choses qui sont très différentes. Et ensuite on a la notion de zone refuge qui sont cette fois-ci des habitats où les espèces peuvent migrer pour suivre ce qu'on appelle leur enveloppe climatique, c'est-à-dire je vis en gros à 23 degrés avec tant de pluie, le changement climatique va me modifier, je vais suivre mon enveloppe climatique, notamment la température. Alors si ça se réchauffe, du coup je vais aller un petit peu plus en hauteur parce qu'il fait moins chaud en hauteur, donc je vais essayer de suivre cette enveloppe climatique et me retrouver dans des zones qu'on dit refuges. Alors c'est notamment nous des zones de montagne où il fait plus frais. Le problème dans tout ça, et qui relie en fait l'effet lisière avec les zones refuges, c'est qu'on a de plus en plus fragmenté les forêts, fragmenté les habitats, et donc le problème du changement climatique c'est aussi un problème de santé globale de la planète Terre. Si on avait une planète qui était beaucoup plus en meilleure forme entre guillemets, avec de belles forêts, etc., on s'adapterait, enfin les espèces adapterait plus facilement au changement climatique, mais en plus du changement climatique, elles doivent faire face à la fragmentation de leur habitat et au fait qu'elles ne peuvent pas accéder facilement à ces zones.
C'est l'accumulation, et en fait, encore une fois, c'est aussi l'interdépendance, le fait qu'il y a des interactions bien plus complexes que ça entre les espèces et leur environnement, c'est toujours ça qui pose question et problème. Et d'où l'importance de le comprendre.
Oui, exactement, Caroline. C'est vraiment cet effet d'accumulation des stress sur les espèces et des fois aussi ces effets cascades. C'est-à-dire que quelquefois, c'est une espèce qui n'est pas concernée qui est stressée. Je pense par exemple à tout ce qui est phénomène d'El Niño au Galapagos, où on a
El Niño, c'est ce
El Niño, donc c'est ce grand courant d'eau qui vient et qui modifie complètement le climat, avec une élévation de la température des océans. Et donc, on peut avoir à ce niveau-là, par exemple, une algue qui est touchée, moins de production d'algues. Mais en fait, étant donné que tout est connecté à la nature, on s'est aperçu que les iguanes marins, par exemple, avaient aussi du mal à rencontrer de la nourriture durant ces époques-là. Et on a des iguanes qui peuvent être à 10 kilos dans certaines îles des Galapagos quand il y a de la nourriture et qui peuvent descendre à 1 kilo dans les endroits où il n'y a plus d'algues. Donc là encore, c'est ces interactions de ce tissu vivant qui font qu'il peut y avoir des effets, ce qu'on appelle des effets cascades dans les chaînes alimentaires ou avec d'autres espèces, qui font que c'est assez difficile de prédire ce qui va se passer.
Autour de la question, comment porter un regard plus avisé sur notre Terre, comment mieux connaître sa biodiversité pour mieux la protéger, je vous propose un autre éclairage, et celui d'un chercheur de terrain, le paléontologue Ronan Alain du Muséum National d'Histoire Naturelle.
J'ai envie de dire, connaître pour mieux protéger, c'est très important, et c'est aller aussi un peu en paléontologie. Je défends souvent ces travaux de terrain qu'on a oublié, tendance à oublier. Je pense qu'en biologie, c'est vrai aussi, on a été un peu trop vite tout mettre du côté de la molécule. La molécule ne va pas apporter toutes les connaissances compensées. Il faut voir les organismes. Un organisme, c'est un tout, c'est complexe. En plus, ça vit dans un milieu. Il faut voir l'ensemble. Donc, effectivement, la connaissance de base, qui est juste l'observation, la récolte, la collection, la découverte de ces animaux. Nous, c'est ce qu'on fait quand on est paléontologue. Je pense que pour des gens qui travaillent sur la diversité actuelle, elle est tout aussi importante. Et moi, je travaille au Laos. Quand on sait le nombre de spécimens qu'il y a sans doute encore à trouver en plantes, en fleurs, en insectes dans ces contrées-là, il faut savoir que l'un des derniers mammifères découverts a été découvert dans les forêts laotiennes.
C'est une antilope, je crois.
Oui, c'est une espèce d'antilope. J'arrive jamais à retenir son nom, mais voilà. Donc, je pense que c'est très important. Il faut pas que les gens oublient ces aspects très naturalistes, en fait. Mais la connaissance, elle vient de là, parce que d'abord, c'est une donnée, et la donnée de base, elle est importante. Même en ethno, c'est un petit peu la même chose. Quand on voit toutes ces langues qui disparaissent chaque jour, en Papouasie Papouasie-Nouvelle-Guinée, où il y a quasiment autant de langues qu'il y a d'ethnies, juste parce qu'à un moment on n'a pas pris la connaissance, on va les perdre, et à un moment quand on va vouloir essayer de retrouver un espèce de canevas de l'histoire des langues, on n'y arrivera plus. Donc en fait, on est en train de perdre des données. On perd des données pour comprendre le monde, et des, qui pourra peut-être nous faire comprendre des choses plus tard sur nos écosystèmes. Voilà. Donc je pense que c'est très important d'acquérir cette donnée, et je pense que c'est un métier à part entière.
Partager l'avis du paléontologue Renan Alain, Olivier Dangle, le terrain, c'est fondamental.
Oui, effectivement, complètement. Dans un contexte, effectivement, de biodiversité face au changement climatique, il faut qu'on puisse mesurer comment cette biodiversité change, comment les espèces changent d'aire de distribution, est-ce qu'elles s'adaptent ou non. Tout ça, il faut donc être sur le terrain pour voir ce qui se passe. Alors, en France, par exemple, on peut s'appuyer sur des réseaux d'observateurs. Hein. Il y a notamment des papiers qui sortent ou qui sont basés sur les réseaux d'observateurs des oiseaux ou des papillons.
Les sciences participatives.
Exactement, les sciences participatives. Ou encore, il y a une autre sous les tropiques à l'échelle intercontinentale. Il y a le Smithsonian aux États-Unis qui a lancé tout un grand programme de capture de photos avec des capteurs sensibles au passage d'animaux. Et donc, on peut aller maintenant sur Google et voir à travers ce programme, qui s'appelle le programme Team, où ont été capturées les photos de jaguars, par exemple, en Amérique du Sud. Donc, on a des petits points qui seraient comme ça. Et on essaye de documenter la présence d'indicateurs, parce que un petit peu comme les grenouilles, le jaguar, c'est un indicateur, en gros, de la qualité d'une forêt, puisqu'il est en bout de chaîne alimentaire. Et donc, toute cette acquisition des données sur le terrain qu'on avait dans les premiers naturalistes qui sont venus découvrir, on se doit un petit peu de revenir des fois sur le terrain pour justement comprendre comment ça change et avoir des données de base.
Alors les photos, ça sert aussi pour tout un chacun. On adore regarder des photos. Dans ce livre, Une autre terre, il y a des photos extraordinaires. La plupart sont prises en Équateur, d'autres en France. Il y en a une sur la couverture, j'aimerais bien que vous nous la décriviez. Elle vient de gagner un prix, je crois, un prix européen, cette photo. Alors, c'est pas en Équateur, c'est en France.
Oui, exactement.
Alors, on y voit une chouette, c'est ça, qui tient un rat entre ses
cerfs. Oui, alors les photos ont été prises en Équateur et en France, même un peu plus en France, en fait. Je collabore avec un photographe, mon ami François Nowicki, qui, alors c'est marrant parce que quand on a fait le bouquin, je lui disais, il faut que tu me trouves une photo d'une chouette sur une croix. Donc on était en train d'interagir comme ça pour prendre les photos. Et effectivement, la photo de François sur la couverture, c'est une photo de chouette chevêche qui est relativement commune dans nos campagnes, qui est en fait, qui s'est posée. Alors les photographes essayent souvent de prendre l'animal dans son milieu, que ça soit très très naturel,
très beau,
enfin, avec des lianes, de la mousse, etc. Vraiment la création de la terre quasiment. Alors que pour trouver des endroits comme ça maintenant sur la planète, c'est quasiment impossible. Et du coup, cette photo prend le contre-pied. C'est-à-dire que la chouette s'est posée sur un piquet qui est tout moche, qui est tout rouillé, avec du barbelé, des clous. Et pour que la photo soit quand même assez belle pour la mettre en couverture, par contre, on a un beau graffiti derrière.
Un beau graffiti en bleu et vert.
Voilà, en bleu et vert, avec des nuages toxiques qui passent au-dessus de la tête de la chouette. Et donc, c'est un petit peu ce mélange des deux. C'est-à-dire qu'on a à la fois une chouette qui est là, qui nous aide en tant qu'humain et nous débarrasse notamment de certains rongeurs qui viennent manger nos cultures.
Oui, elle a un rat entre ses cerfs.
Nos livres, etc. Et d'un autre côté, qu'est-ce qu'on lui rend? On la met dans un système où il y a des graffitis derrière. Alors, il y a cette vision un petit peu de l'espèce qui est un peu perdue, mais d'un autre côté, il faut qu'on voit aussi certaines espèces qui s'adaptent finalement à certains milieux.
Oui, et en même temps qu'on n'ait peut-être pas cette vision, un peu passée, soit un peu bon sentiment, c'était mieux avant, faut récupérer la nature d'avant, faut surtout la mettre sous cloche, qui est totalement impossible. On est sur une autre terre, oui. Nous les hommes et toutes les autres espèces, et peut-être qu'il faut l'envisager comme ça, c'est-à-dire qu'il y a aussi dans nos villes une faune, une flore qui existe et qui s'adapte.
Effectivement, alors là, c'est un sujet quasiment philosophique, on va dire. Chacune des personnes a son degré de naturalité qu'il veut. Moi, je suis assez écologie profonde, on va dire. Donc, je suis plutôt effectivement pour conserver le maximum de d'écosystèmes à son état très naturel. Mais c'est vrai.
Mais est-ce qu'un état naturel,
L'état le moins perturbé.
Vous êtes le moins perturbé.
Le moins perturbé possible. Effectivement, des fois, on est en plein milieu de la forêt amazonienne en Équateur. Je dis enfin une forêt complètement naturelle. Et puis, je suis avec un anthropologue qui me dit attends, je vais gratter. Il trouve des céramiques en dessous. Et puis, effectivement, il y avait des habitants il y a 300, 400 ans, juste à ce niveau-là. Et donc, mais oui, je pense qu'au-delà de tout ça, ce qui est important surtout, comme vous le dites, de regarder la nature en ville ou choses comme ça, c'est surtout nous de nous reconnecter finalement. C'est-à-dire avoir une nature, ne pas la séparer, pas dire, il y a que l'Amazonie là-bas ou, l'Antarctique, des milieux complètement vierges. Il faut qu'on se reconnecte en disant, il y a de la nature en ville, il y a des abeilles, il y a des chouettes, il y a des martinets, il y a des faucons sur Notre-Dame, etc. Donc tout ça, pouvoir la voir, même dans la ville, c'est quelque chose qui est important. Oui.
Au fond, il faut que tout le monde se reconnecte à la nature. En écoutant Renan Alain, il disait, mais il faut absolument que les chercheurs y retournent sur le terrain, en fait, comme les naturalistes autrefois. Vous qui travaillez en Équateur, vous le savez aussi. C'est-à-dire, voilà, il faut qu'au fond, les chercheurs, comme tout un chacun, se reconnectent à ça, et que les artistes, vous y êtes peut-être, en nous rappelant la beauté de cette nature-là.
Oui, je pense qu'on a tous un effort à faire. Alors, pour certains, c'est plus facile que d'autres, notamment ceux qui ont vécu, je pense, des expériences de leur enfance marquantes dans la nature. Moi, j'avais mes grands-parents en Aveyron, et effectivement, je suis allé là-bas, j'ai vécu toutes mes vacances, donc ça fait des moments qu'on passe ensemble. Et il y a plein de gens maintenant qui n'ont pas cette connexion. Ils vivent dans les villes, on est à plus de 50% de la population mondiale qui vit dans les villes, donc on se déconnecte de plus en plus. Mais c'est important de pouvoir conserver ça et d'amener les gens. Alors moi, ce que j'essaye de faire aussi en Équateur, c'est d'amener des étudiants le plus sur le terrain possible, de leur faire comprendre ce qui se passe pas très loin de chez eux, de leur montrer une abeille avec une tortue, comme on parlait tout à l'heure. Et ça, c'est des choses qui émerveillent et on essaye de les reconnecter comme ça.
Autour de la question, comment rêver une autre terre? On écoute la chanteuse équatorienne Maria Tejada, vous la connaissez?
Oui, oui, très belle voix.
Très belle voix, inspiration brésilienne cette fois-ci pour cette samba. De la chanteuse équatorienne Maria Tejada sur RFI, autour de la question comment porter un regard plus avisé sur notre terre, en compagnie de l'écologue Olivier Dangle, qui dirige le bureau de l'IRD à Quito, en Équateur, et qui vient de publier Une autre terre, très bel ouvrage lexique illustré de magnifiques photos entre émerveillement et prise de conscience. Écoutez l'éclairage du géographe Alphonse Yapidiaou.
La vraie question, c'est quel est le type de société que nous voulons vivre? Quel est le modèle de société? Et quand je dis le modèle de société, quels sont les modèles d'organisation et de fonctionnement économique que les sociétés ont envie de mettre en place pour que ce qu'il est convenu d'appeler le développement soit le moins préjudiciable possible aux environnements, qu'il s'agisse des environnements encore naturels, si tant est qu'ils existent, ou qu'il s'agisse des environnements anthropisés, que l'on soit à la campagne, que l'on soit en ville, ou que l'on soit dans des parcs nationaux, dans des centres de loisirs. C'est là le fond de la question. Le choix du modèle de société et du genre de vie qui va avec.
C'est ça la vraie question, Olivier Dang, j'est d'accord avec Alphonse Yabou.
Oui, complètement d'accord. D'ailleurs, le livre essaye d'aller vers ces aspects un peu plus philosophiques vers la fin de l'ouvrage. Je pense qu'effectivement, ce qui nous manque à l'heure actuelle pour vraiment faire que tout le monde se serre les coudes, entre guillemets, pour aller vers un monde qui soit meilleur, c'est de trouver un modèle commun, un modèle à construire, quelque chose vers lequel on veut y aller. Il y a quand même, lors de la révolution industrielle, le modèle de l'essor économique, du progrès, etc., ça a fait sortir les gens de leur chaumière, ils vivaient à la campagne tranquillement, vivaient l'agriculture, et puis tout d'un coup ils sont allés s'entasser dans des villes, dans des industries, parce qu'ils avaient une sorte de modèle comme ça sur le progrès, sur une sorte d'idéal qu'ils voulaient atteindre. Et je pense que on doit repartir un petit peu pas en arrière, mais créer quelque chose de nouveau avec en gardant les nouvelles technologies, en gardant
l'espoir tout ce qu'on a. Est impératif, hein, dites-vous dans ce livre.
Oui, exactement. Alors là, c'est une paraphrase d'un célèbre philosophe américain, David Hoare, qui parle justement beaucoup sur le changement climatique. Et on est toujours tenté un petit peu entre être les faiseurs de catastrophes. Enfin, on se doit aussi en tant que scientifique d'alerter sur les problèmes qu'il peut y avoir. Sinon, on serait même pas qu'il y a autant de CO2 dans l'atmosphère s'il n'y avait pas les scientifiques qui le mesuraient. En fait, on n'arrive pas à le mesurer nous-mêmes. Et de l'autre côté, effectivement, garder espoir et prendre un petit peu les initiatives les plus belles pour les illustrer et pour les communiquer aux autres pour continuer à se battre.
Communiquer et en même temps aussi partager hein, tout ce savoir. Je sais que vous avez venu de collaborer à un MOOC. Alors, nos auditeurs, ils sont très friands de MOOC sur Internet. C'est quoi? C'est pas sur les glaciers, hein, c'est quoi?
Non, c'est pas sur... Si, en fait, le glacier est aussi partie de tout ça. En fait, c'est un MOOC qui s'appelle Des rivières et des hommes. Donc, justement, je crois que ça a commencé aujourd'hui, les inscriptions. Donc, vous pouvez vous inscrire...
Ça s'appelle Des rivières et des hommes,
voilà,
c'est ça,
sur Internet, Des rivières et des hommes, et vous trouvez l'inscription. Et en fait, il va démarrer au mois de novembre, et le but du jeu, c'est d'essayer d'expliquer un petit peu la relation entre l'homme et les rivières partout dans le monde. Donc il y aura des cas d'études, notamment en Asie, sur le Mékong, aussi en Afrique, le lac Tchad, au Mexique. Et nous, je viens justement d'enregistrer hier un petit passage sur justement les rivières glaciaires, cette fois-ci, comme marqueur de changement climatique. Donc les rivières, ça sert un petit peu à tout, et dans les Andes, ça sert beaucoup aux hommes aussi. Ce sont des châteaux d'eau, en fait, les glaciers, donc les rivières donnent de la vie aussi dans ces Andes, et en même temps ce sont des marqueurs de ces changements, et donc c'est la partie du MOOC qu'on a présenté avec mes collègues.
Donc le MOOC des rivières et des hommes, vous avez parlé des hommes, et évidemment dans une autre terre, les hommes, d'abord on n'est pas à part, hein, et on n'est pas oublié non plus, puisqu'évidemment dans cette interdépendance, hein, dans cette biodiversité, on en fait partie, on est moteur de tous ces changements, pour le meilleur comme pour le pire souvent, on serait moteur de changement vers le meilleur d'ailleurs, mais on est inclus, enfin les interactions hommes, environnement, société humaine, vous n'évitez pas les questions qui fâchent non plus sur la démographie ou sur la pauvreté.
Oui, tout à fait. Dans nos civilisations, il y a peut-être aussi le poids des religions un petit peu, qui a toujours placé l'homme de manière complètement séparée de la nature. Hein. Descola a très bien parlé de toutes ces interactions entre hommes et nature, et le fait que dans certaines sociétés, on ne conçoit même pas le fait que l'homme puisse être différent du singe ou d'un rat qui est dans l'arbre ou d'autres animaux, parce qu'on fait partie du même et on dépend de la même terre. Nous, c'est vrai qu'on a complètement perdu ce lien qu'on avait, et ça, je pense que ça va être vraiment d'essayer de nous relier un petit peu plus à la nature. Ça va être une des clés, en fait, pour nous battre justement pour cette planète, parce que si on se sent véritablement connecté à elle, ça sera plus facile pour nous de nous battre.
Il y a une petite question dans le mix au début, vous êtes plutôt optimiste ou plutôt alarmiste, Olivier Dangle?
Alors, je suis un optimiste prudent, on va dire.
Optimiste prudent.
Voilà.
Et côté émerveillement, un de vos plus grands émerveillements personnels quand vous êtes dans les glaciers andins, quand vous êtes en Amazonie.
Plus grand émerveillement, c'est le lever de soleil sur une forêt tropicale avec tous les oiseaux qui chantent de tous les côtés. On les voit presque pas pendant la journée parce qu'ils vivent dans la canopée, et juste les premières heures du lever, là, on entend qu'il y a au moins 100-200, et en fait il y a 500-600 espèces d'oiseaux dans l'hectare de forêt qui est autour de nous. C'est quelque chose qui est vraiment fabuleux.
Avec les oreilles, avec les yeux. Hein.
Avec les oreilles, avec les yeux, exactement.
Merci infiniment. Vous repartez quand en Équateur, à Quito?
Demain matin, voilà, 8h du matin, on prend l'avion et voilà, je repars vers mes pénates, continuer un petit peu les recherches qu'on doit poursuivre là-bas, et aussi parler beaucoup changement climatique. On va avoir la visite du Premier ministre dans pas longtemps. Donc on va parler de la COP, c'est des endroits très importants pour parler de ces changements climatiques à niveau politique aussi. Donc c'est un petit peu mon travail à l'heure actuelle à l'IRD aussi, de mixer un petit peu la partie scientifique et la partie plus diplomatique, politique. Donc essayer à mon échelle de faire quelque chose pour la planète en sensibilisant non pas seulement les étudiants ou mes collègues qui sont déjà un peu sensibilisés, mais des diplomates, des hommes politiques.
Peut-être encore plus difficile ça. Bon courage, Olivier Dang. Merci infiniment d'être venu en direct sur RFI.
Merci, Caroline.
Merci. Je rappelle le titre de ce livre vraiment très beau. Une autre terre, lexique illustré d'une nature à protéger, qui vient de paraître aux éditions de l'IRD avec les magnifiques photos donc de François Novitzky. Et je peux citer aussi Bélène Ménat et la préface est de Pierre Rabhi. Je signale aussi pour nos auditeurs qui seraient de ce côté-là de l'Équateur, une exposition photo associée, la biodiversité face au changement climatique, 10 témoignages d'Équateur, c'est à l'Alliance française de Quito jusqu'au 20 juin, et puis dans les alliances françaises de Cuenca. Allez-y. Cuenca,
Guayaquil, Loja.
Guayaquil, Loja et Porto Viejo.
Et Porto Viejo.
À partir de septembre. Merci infiniment, Olivier Dang.
Merci, Carole.
Les hommes parlent comme les oiseaux. Sur l'île de la Gomera, on entend El Silbo en écho. Entre deux montagnes amarrées aux nuages, un guanché siffle pour s'inviter à dîner. Au menu, un mojo piquant qui monte aux yeux. Et à nouveau, un sifflement pour se dire adieu.
Le silbo, la langue sifflée des hommes et des oiseaux, jolie transition, puisque demain, autour de la question « Pourquoi tant de drones dans l'air ?», nous interrogerons sur ces nouveaux robots volants furtifs et tactiques qui envahissent tout notre espace. À demain, amis auditeurs, dans quelques instants, c'est l'heure du journal sur RFI.